Dan Mag, T comme Titan, Dan comme Daniel, le magazine de Titan et Dan. Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique
au micro et de l'ami fidèle
Laurent
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Nous entamons une année nouvelle, nous incitant une fois encore à proclamer des vœux de conduite. Nous voulons nous retrouver, nous interroger sur le chemin à parcourir, sur son bien-être. Comment être perçu et comment saisir ou sentir le monde, par la peinture, la danse, l'écriture ou toute autre performance de l'art. Depuis quelques dizaines d'années, l'on parle d'art-thérapie pour accéder aux sentiments enfouis en chacun de nous. Bien sûr, nous pensons tout de suite au marquis de Sade comme précurseur de la méthode en raison des spectacles qu'il dirigeait vers 1800 à l'asile de Charenton et qui attirait le tout Paris avide de voir des aliénés en représentation. Nous ne sommes pas dans cette extrémité et tout le monde n'est pas du même avis sur cette thérapie. Que faire, que choisir ? Dom, nous avons invité deux artistes plasticiens qui ont chacun un regard différent sur cet enseignement et nous sommes curieux de connaître leurs pensées profondes et leur méthode de pratiquer l'art. Merci Christophe Carmelino et Georges Testu d'avoir accepté notre invitation et de pouvoir ainsi échanger vos opinions et vos points de vue sur l'art appliqué. Christophe Carmelino, né à Lyon, vous êtes formateur, intervenant artistique en animation sociale et éducative, ainsi qu'en insertion professionnelle. Vous avez initialement le diplôme national supérieur des beaux-arts de Bourges avec l'option sculpture, bois, pierre et autres matériaux. Vous obtenez un master en Allemagne à l'académie de Düsseldorf où, en parallèle de vos études, vous êtes assistant de vos professeurs. Vous prolongez votre apprentissage de 2 ans en Pologne, à Cracovie, afin de découvrir au sein d'une entreprise de moulage d'art d'autres techniques artistiques. Vous donnez des cours, vous initiez à l'art. Vous avez obtenu l'agrément de la DRAC en 2010. Ceci est un survol rapide de votre parcours et nous y reviendrons au fur et à mesure de notre discussion. Georges Testu, photographe et artiste peintre, praticien en médiation artistique, vous obtenez le diplôme art-thérapie au PROFAC, Centre de psychologie appliquée à Arles. Et comme Christophe Carmelino, vous exposez et vous voyagez du côté de l'Italie, de Madagascar par exemple. Georges, vous parlez de l'art-thérapie, tandis que Christophe dit ne pas exercer l'art-thérapie, mais uniquement placer la fonction de l'art comme révélatrice du beau, valeur toute personnelle, mais qui procure à chacun un sentiment de plénitude. Son objectif, au travers de l'enseignement artistique, n'est pas l'expression psy de l'inconscient, mais l'apprentissage et le décodage progressif de cette vaste notion, entre guillemets. Georges et Christophe, tous deux avaient fait un cheminement vous amenant à regarder différemment la société, à vouloir ouvrir sur l'étranger, donner dans l'échange et l'appui par l'art. Faites-nous participer et comprendre ce basculement dans la formation. Voilà, qui veut commencer? Qu'est-ce qui vous pousse à agir ainsi? Et je me demandais si en même temps c'était une quête de soi.
Alors, bonjour, Titane.
Christophe.
Bonjour aux auditeurs. Donc ce travail, en fait, c'est aussi un moyen de rompre l'isolement de l'artiste, on va dire, donc de quitter l'atelier où on se concentre exclusivement sur son ego et son voyage intérieur, on va dire, pour tout à coup essayer d'avoir un partage humain sur des valeurs humaines et puis pouvoir justement convertir en fait toute cette richesse qu'on arrive à développer avec les années. Et richesse artistique et la convertir en bien-être pour les autres aussi. Voilà.
Est-ce que le public est ciblé à ce moment-là ou c'est tout public?
Alors initialement c'était tout public. L'opportunité que j'ai eue c'était de pouvoir me former justement à ces vertus pédagogiques au sein d'un organisme lyonnais qui était un petit peu en recherche de fonctions un peu particulières, et notamment d'insertion d'artistes dans le monde professionnel. Et donc l'idée, c'était de récupérer un peu les artistes au RSA au départ et de leur faire bénéficier d'une formation pédagogique qui les amènerait à leur tour à pouvoir échanger leurs connaissances et à partager leur savoir, en fait.
Et pour vous, Georges ?
Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour moi, j'ai une approche qui est sensiblement un peu celle de Christophe. C'est aussi sortir de l'isolement de notre atelier et de notre espèce d'aura qu'on pourrait avoir en tant qu'artiste, avec un grand A. Je pense que d'essayer d'apporter quelque chose aux gens pour qu'ils puissent oser créer, ça leur apporte une autre dimension, ça leur apporte une autre valorisation. Et quand on y arrive, c'est vrai qu'on a un rendu qui est sympa et voilà.
Ouais. Et comment se fait-il tous les deux ? Vous êtes des artistes et qu'est-ce qui vous pousse à être venu à ce genre de formation ?
Alors moi, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes en difficulté scolaire ou en décrochage scolaire et désocialisés. Et ces gens-là me posaient beaucoup de questions ou m'envoyaient des fois des choses auxquelles je ne pouvais pas répondre. Donc au bout d'un moment, je me suis retrouvé face à toutes ces interrogations et j'ai essayé de trouver un moyen de pouvoir y répondre. La pratique artistique apportait un bien-être, apportait une confiance et moi je m'arrêtais là, je fermais la porte après. Donc l'art-thérapie, la formation d'art-thérapie qui est un peu psycho, mais elle me manquait moi parce que j'intervenais. Je dis que je fais de l'art-thérapie depuis que je suis comme je suis, parce que c'est peut-être une façon d'être et une façon d'approcher les gens. Et là, j'avais besoin de vraies réponses psychologiques par rapport à certains problèmes, à certaines pathologies que je ne comprenais pas ou certaines agressions que j'avais du mal aussi à porter. Et cette formation m'a appris à avoir beaucoup de recul, à beaucoup plus prendre le cas un peu plus large, ne pas le prendre que pour moi, et puis pouvoir répondre beaucoup plus précisément à ces gens-là.
Oui, alors, dans thérapie, y a le mot grec, thérapeia, qui signifie cure, et comment est-ce que vos interlocuteurs, les gens qui viennent vers vous, expriment ce besoin d'une cure, justement ? Est-ce qu'ils vous le disent spontanément ? Est-ce que vous avez un questionnement ?
La première rencontre est une rencontre purement, pas amicale, mais professionnelle. On discute avec la personne. Il faut que le lien passe entre la personne et moi. Je pense que c'est primordial parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et donc ça, c'est dans la pratique individuelle. Donc je reçois la personne et si le courant passe, si on sent qu'on peut faire quelque chose ensemble, je ne parle ni de pathologie ni de travail à ce moment-là. C'est qu'à un moment donné, la personne qui va créer quelque chose, j'aime bien le triangle qu'il y a. Il y a la personne, il y a son travail et il y a moi. On parle plus facilement de ce qu'on a créé. La personne a moins l'impression de se dévoiler, mais elle se dévoile. Et à un moment donné, une séance, deux séances, trois, quatre, elle va lâcher le morceau. Elle va nous dire là où elle veut travailler. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce moment-là, on ne peut pas travailler qu'une personne. Si moi je ressens quelque chose, je le garde pour moi. Mais je vais travailler là où la personne m'amène. Je vais en aucun cas aller plus loin que ou chercher des choses. Je ne vais pas fouiller dans des choses qu'elle n'a pas envie de me parler. Et on commence à travailler dès qu'elle a déposé le souci, là où ça lui fait mal, là où son sac à dos de sa vie est trop lourd, et c'est là où on commence à travailler. C'est là où on parle de cure, parce que ça peut durer 1, 2, 10 séances, ça dépend un peu des gens, ça dépend de...
Et alors, donc, vous avez parlé du triangle. Vous avez employé le mot expression artistique. Est-ce que dans la finalité de votre intervention, il y a l'envie de faire produire ce qu'on appelle de l'art, Christophe?
Alors, effectivement, je suis un petit peu moins sur l'expression artistique que sur la recherche d'une production esthétique, en fait, parce que je pense que c'est à travers cette valeur esthétique et qui est relative, comme Titane l'a exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun va mettre sa graduation à l'échelle du beau, hein, bien sûr, mais c'est à travers cette rencontre esthétique, ce développement culturel et intellectuel que tout à coup, les personnes vont justement aussi faire leur chemin. Je n'ai pas pas du tout envie d'aller chercher dans l'inconscient des gens parce que j'en ai pas les compétences et pas l'envie, et puis que bien souvent un travail personnel d'introspection, ça suffit déjà largement à une vie sans aller chercher dans celle des autres. Enfin, mais du coup, ça leur permet, par cette approche, la visite de musées, les rencontres culturelles aussi, de déclencher quelque chose, et puis de souvent même, c'est assez étonnant, de faire leur propre chemin. C'est-à-dire que ce travail, je le vois, je peux l'observer, enfin, sans avoir des valeurs de psycho, à travers la pédagogie, on a une certaine psychologie aussi qui se révèle, c'est-à-dire qu'on peut observer des choses, et on voit les gens qui font un chemin tout seuls, c'est-à-dire qui vont à travers des choix de modèles différents, nouveaux, faire l'avancement, et des choses vont s'ouvrir pour aller où, je ne sais pas, c'est leur... Je n'ai pas les compétences pour les suivre et pour les emmener sur ce chemin-là, mais simplement à travers le choix de esthétique des couleurs, leur apporter le choix et leur donner la possibilité du choix, il y a des choses qui se délient et qui s'ouvrent, j'allais dire, naturellement, en fait.
Est-ce que c'est le fait de leur donner des clés et de leur apprendre à regarder?
Alors, de mon point de vue, effectivement, les outils artistiques, je les utilise vraiment comme des outils, c'est-à-dire qu'on travaille la perspective, on travaille le cercle chromatique, on travaille toutes les données techniques et on apprend à décomposer ce qu'on voit et ce qu'on regarde, et au fur et à mesure, effectivement, les gens prennent un peu plus d'acuité et de affinent en fait ce regard, et du coup avancent aussi sur leur propre regard, en fait, sur leur propre recherche, en fait.
Parce que vous avez dit que vous étiez dans l'insertion des artistes, et donc
je parlais de l'insertion des artistes, c'était la formation initiale que j'avais faite, c'est-à-dire que voilà, c'était des artistes comme moi-même qui voulions. Après, on avait des motivations un peu différentes les uns les autres, c'était de gagner quelque argent avec, et puis pour certains c'était vraiment un désir de partager ces connaissances, en fait, et par l'outil pédagogique d'arriver à le faire. Donc c'était ce chemin-là, en fait. Mais pour ce qui est vraiment du projet que je mène actuellement avec une association de Villefontaine, depuis déjà pratiquement 10 ans, en fait, c'était plutôt une rencontre, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à dire, mais voilà, on propose sur un endroit donné des cours classiques, les gens viennent 2 heures, repartent. Si on pouvait proposer quelque chose d'un petit peu plus intense, qui apporterait un peu plus de bien-être aux gens, voilà. Et puis on est parti il y a 10 ans, soutenu par le Conseil Général avec l'association Nuance, et c'est dans ce cadre-là exclusivement que j'exerce ces pratiques-là, en fait. Je les ai exercées au préalable aussi avec l'organisme de formation lyonnais qui m'avait formé moi-même sur différents types de groupes, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des publics alcooliques. Enfin, on a essayé différentes choses, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait quelque chose d'étonnant dans le faire, en fait, juste dans la pratique aussi.
Alors moi, j'ai peut-être une autre approche. J'ai deux approches différentes, juste un tout petit moment. Quand je suis un individuel, je cherche plutôt, pas du tout dans l'esthétique, je suis plutôt dans le lâcher-prise, que la personne vienne et donne ce qu'elle a à ce moment-là. Alors, en travail en groupe, c'est un peu différent, on est plus dans l'esthétisme, les gens cherchent déjà peut-être à épater un peu plus l'autre aussi. On est dans la construction d'un tableau plutôt. Et, sauf, bon, à moins de travailler vraiment des tout, tout petits groupes, mais principalement en individuel, c'est plutôt travailler sur le lâcher-prise et puis quelque chose qu'on dépose et après, voilà, qu'on accepte. On est dans l'acceptation de son problème. Voilà.
Da
97.1 sur Couleur FM avec nos invités Christophe Carmelino et Georges Testut. Nous venons d'entendre Goran Bregovic dans Eder Lezi. Alors c'est un choix qui vient de vous, les invités. Il me semble que c'est une chanson lyrique. Est-ce que ça a tendance tzigane?
C'est une chanson qui accompagne les décès, qui est chantée pendant les décès, oui, chez les tziganes. Et je trouve qu'elle emporte quelque part. C'est des voix d'enfants. Ça nous emporte quelque part qui est magique.
Merci.
Oui, Christophe et Georges, j'aimerais que chacun à votre manière, vous essayez d'expliquer comment il se fait, cette espèce de mystère, comment il se fait que quand on essaye d'accompagner quelqu'un vers une production artistique, et comment il se fait que ça rencontre un tel écho que du coup ça permette à la personne de déposer son sac, tu as dit, ou de faire un cheminement avec. Ça veut dire que l'art c'est quelque chose de fondamental, ce qu'on sait tous, mais est-ce que vous vivez avec eux?
Alors justement, je pense que la chance que j'ai, et peut-être Georges aussi, c'est que on a le moyen de le mettre en pratique, c'est cette fondamentalité de l'art. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on en est convaincus au sein même de notre travail, dans les relations avec nos acheteurs, nos collectionneurs. Enfin. Mais dans l'idée du partage, il y a cette notion-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de fondamental qui va permettre aux gens de devenir des hommes, quoi, des êtres humains à part entière, avec leurs choix, leurs envies, leur désir, et donc l'esthétique qui permet d'avancer et de structurer tout ça, les aide, leur donne, je sais pas, quelque chose de très particulier qui fait qu'ils arrivent à bouger, à avancer. Enfin, peut-être c'est un mystère, enfin, je n'ai pas l'âme humaine au creux de la main pour pouvoir vous dire tout ce qui est dedans, mais c'est vraiment quelque chose qui à chaque fois m'étonne. Quand j'ai un petit exemple, quand je parle de la perspective et que tout à coup les gens se mettent à découvrir que finalement notre œil nous trompe en permanence, qu'on est au sein d'un monde dont la réalité ne sont pas deux lignes droites qui se rencontrent en un point, mais bien toujours la même route qui reste parallèle jusqu'au bout de la route et du bout du chemin, et qui me disent « Ah oui, j'essaie de regarder ça en roulant. » Je dis « Attention, tu vas te casser la figure en voiture. » Mais voilà, c'est-à-dire que tout à coup, il y a comme des voiles qui s'ouvrent sur la réalité du monde à travers de l'art. Et puis, on dit « Les artistes rêvent ». Non, les artistes observent. C'est-à-dire qu'ils sont dans le réel. C'est l'inverse du... Voilà, enfin, j'ai peut-être aussi un tempérament de sculpteur, donc la matière me touche plus, et le concret, enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'essaye d'aller toujours plus près et d'emmener aussi des gens sur ce chemin-là, parce qu'effectivement, plus on observe de près, plus on se rend compte que finalement, le monde n'est pas si hostile que ça.
Alors, pour moi, l'acte créatif amène à quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas... J'aime bien le mot oser, oser aller créer, aller faire quelque chose de ses mains. Parce que moi, je l'ai découvert par la peinture, une fois, comme ça. Ça m'a apaisé une fois que j'avais peint. J'étais calme, toutes mes idées noires avaient disparu. J'avais pu déposer quelque chose sur cette toile. Donc, je me suis dit, à un moment donné, si ça me fait du bien, ça doit pouvoir être transmis à d'autres personnes. Et je m'aperçois, au fur et à mesure, aussi bien avec des jeunes désocialisés qui n'ont plus que quelques mots pour communiquer, leurs mains communiquent aussi. Et autant avec la parole, comme on est en train de le faire, on va chercher nos mots, on va, par rapport à la personne, à l'interlocuteur, on va les choisir, on va trier, on va être sur la retenue. L'acte de créer, la main, va souvent un peu plus loin. Elle n'écoute pas toujours le cerveau, elle n'est pas toujours en retenue. Et à ce moment-là, la personne nous propose quelque chose. Et c'est ce moment-là qui est intéressant. Pour moi, dans l'art-thérapie, la création n'est pas l'étape la plus importante. Elle est une étape. La première étape qui est importante, c'est comment la personne est dans cette création. Pour dire un petit exemple, j'ai vu des gens physiquement se noyer en peignant de la mer. Pour voir un peu, pour donner un peu une idée de où est-ce qu'on peut aller.
Jusqu'à ce point-là.
Jusqu'à ce point-là. Déjà, au bout d'un moment où la respiration... Et on les sent s'étouffer. Alors, notre rôle est d'arriver et à un moment donné de dire stop, on arrête là. On est allé à un moment donné. Et voilà, donc, la personne nous propose quelque chose et on peut aller. C'est vrai que c'est magique. Il y a aussi une part de magique, de rêve dans la création.
Si je comprends bien, c'est un échange.
Ah, complètement, complètement. On est même avec notre toile, avec notre sculpture, c'est un échange déjà à deux. Mais s'il y a une troisième personne qui est là, s'il y a un groupe qui est là, je pense que la création vit du groupe. La même journée sans ce groupe, ce serait pas la même création.
Christophe, pardon, vous vouliez rajouter quelque chose?
Je voulais rajouter que, enfin, pour me cacher derrière la technique, c'est qu'effectivement, quand on bascule sur le cerveau droit, qui est celui de la sensibilité, tout à coup, on perd aussi le temps des horloges. Et puis, c'est quelque chose qui nous emmène sur un chemin, finalement, qu'on connaît peu, parce que le temps des horloges, c'est ce qui nous anime tous. Et de se dire, tiens, mais j'ai déjà passé 2 heures, quelle heure est-il? C'est fini? Ah bon? Voilà, je trouve que... Pour moi, déjà, rien que ce petit chemin-là et d'avoir les gens qui sont emmenés là-dessus et puis de les laisser cheminer doucement, c'est déjà quelque chose que je trouve de fantastique.
Christophe, et est-ce que d'avoir fait ce travail et d'avoir cet échange avec les personnes qui suivent cet atelier, est-ce que vous-même, cela a changé votre regard et votre façon de travailler ?
Alors effectivement, ça a opéré un espèce de virage. Alors là, j'allais dire, parce que j'étais peut-être dans une vision très intellectuelle, très beaux-arts en fait, de mon travail. Et depuis, j'allais dire une dizaine d'années maintenant, je m'intéresse plus à la statuaire, quoi, c'est-à-dire au personnage, dans ses postures, dans ses mimiques, dans son... Et à ce qu'elle peut dégager, en fait. Et donc effectivement, je me suis rapproché de la signification, enfin du dessin ou de l'être humain, quoi, plus qu'avant j'étais sur une vision un peu plus abstraite et plus mentale, plus conceptuelle en fait de l'art.
Et pour vous, Georges, qui venait donc au départ de la photographie, déjà la photographie, c'est un exercice du regard. L'artiste va voir des choses que le commun ne va peut-être pas percevoir. Ensuite, vous avez commencé à peindre et vous avez voulu aller plus loin. Et cela, tout au long de votre travail de peintre, est-ce que votre regard a changé également ?
Mon regard sur... La peinture n'a pas forcément changé. Je suis autodidacte, donc je me suis construit... Je trouve que le mot autodidacte est quand même un peu faux aussi par rapport à ça, parce qu'on ne se construit que d'autres personnes. Mais voilà, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire les beaux-arts. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu certainement m'intéresser, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Mais je me construis de rencontres et c'est un cheminement qui va... Je peins plutôt... C'est plutôt à l'affect. Donc, c'est des rencontres, c'est des voyages comme à Madagascar, par exemple, où j'ai travaillé j'ai créé un atelier d'art-thérapie dans un hôpital psychiatrique pour enfants, qui est dans l'ancienne prison française. Donc, déjà, le lieu nous met en forme. Et de ça, au bout d'un moment, il va falloir le digérer. J'ai mis plus de 6 mois avant de pouvoir peindre quelque chose sur Madagascar. Et voilà, je me construis plutôt de petites choses comme ça. J'ai pas une haute vision de l'art conceptuel ou pas. Enfin voilà, je vis l'art un peu tous les jours et puis je m'interroge et j'accepte ce qui se passe en ce moment.
Et vous, quand vous étiez par exemple à Madagascar, est-ce que vous gardez des liens avec ces personnes qui vous ont suivi? D'abord, est-ce que l'introduction de votre travail a été facile en général? Est-ce que c'est accepté ou il faut au contraire se battre entre guillemets ou se faire accepter? Comment ça se passe?
Alors, dans le projet, je suis parti avec une association qui s'appelle Kosoanja qui travaille avec cet hôpital psychiatrique. Et dans la première partie du projet, c'était de créer l'atelier, mais aussi de former un peu sur place 3 animateurs qui pourraient continuer en ayant un petit fil autour de la thérapie ou de l'accompagnement, ça suffisait. Et donc aujourd'hui, l'atelier continue encore, un peu plus de 3 ans après. Donc ça, c'est ma grande fierté, parce que si c'est pour faire le coup médiatique, aller 3 semaines à Madagascar, faire mon atelier, revenir, faire mon petit article de presse, c'était bien. Mais voilà, je trouve que voilà, la grande force, c'est l'association qui a continué à financer tout le matériel qui est nécessaire pour l'activité et les 3 personnes qui sont légèrement financées aussi pour faire ces ateliers. Après, il y a eu j'ai été introduit par le directeur de l'hôpital parce qu'il avait fait ses études en France et qu'il avait découvert un peu l'art-thérapie au cours de ses études en France. C'était mon seul point, c'est la seule personne qui était d'accord avec ça dans tout l'hôpital. Quand je discutais avec les docteurs en psychiatrie de l'hôpital, et qui me disait, mais pourquoi tu leur parles comme ça, par exemple, aux jeunes? Je leur dis, comment je leur parle? Il me dit, mais ça sert à rien, c'est des fous. Ça m'a outré. Et j'ai essayé de leur expliquer. Je n'ai pas trouvé les mots, je n'ai pas réussi à leur expliquer. Seulement, j'y suis resté 3 semaines, et là, au bout des 3 semaines, avant de partir, la dernière réunion qu'on a fait avec les docteurs, les psychiatres et le directeur, on les a fait dans l'atelier où on avait fait les travaux avec les jeunes. Et les travaux des jeunes étaient sur un mur. Et il n'y a qu'à ce moment-là, quand ils ont vu ce que les jeunes avaient été capables de créer, ils se sont dit « c'est peut-être passé quelque chose ». Et à partir de ce moment-là, j'ai pu travailler un peu avec eux, les retourner un peu. Mais ce n'est pas moi qui les ai retournés. Ce sont les jeunes qui sont venus aux ateliers qui ont permis ce travail-là.
Et vous-même, ce travail vous a retourné également,
ça
puisque...
a été, oui, très, très difficile à revenir ici. Et à me dire, qu'est-ce que je peux faire de ça? Bon, alors, là, ce qui me tient, c'est que l'atelier continue. C'est, voilà, sa vie. Et puis, mais pour moi, j'ai mis plus de 6 mois, donc, pour revenir et puis me dire, comment je pourrais retranscrire ça? Et je suis parti au départ sur du noir et blanc. J'ai fait presque du dessin en peinture. Hein, alors que j'aime la couleur. Je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup la couleur.
Et pour vous, Christophe, vos liens et relations avec vos élèves, vous les suivez, ils restent longtemps? Comment, en général, ça se passe?
Alors, justement, il y a eu plusieurs types d'élèves. C'était des actions très officielles menées par le Conseil général ou la région Rhône-Alpes. Ce qui m'a vraiment beaucoup apporté, c'est de travailler avec des personnes handicapées. Effectivement, sur Lyon, j'étais sur des actions. Et de voir justement la force de caractère et la simplicité des choses, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est une entité, on a un morceau en moins et on peut continuer, quoi. Et souvent, l'artiste, c'est un petit peu un handicapé de la vie sociale. Il n'est pas très à l'aise avec les choses, avec le monde. Et effectivement, d'avoir une rencontre avec des gens qui ont une telle aura, une telle force... Ça vous donne de la force aussi pour avancer et pour se dire, mais voilà, on peut prendre sa place et puis allez, on bouge un peu les murs, on met des grains de sable dans les rouages, on fait avancer les choses de manière un peu biaise et puis tout à coup, ça prend un chemin quand même et puis ça emmène les gens.
Et parfois, ce chemin, il est dur, il est compliqué.
Alors, effectivement, parce que donc là, je suis sur des publics qui, actuellement, initialement, étaient plutôt au chômage ou en rupture d'activité, mais avec le type de personnes avec lesquelles je travaille actuellement, on a affaire à un grand désarroi social et puis psychologique. Et là, honnêtement, j'étais un petit peu perdu parce qu'effectivement, il y a des choses que je peux apporter, mais voilà, quand il y a un désarroi ou une maladie mentale ou un problème plus grave, ben, je peux essayer de redonner le chemin, mais pas plus, quoi. Donc l'association maintenant, c'est comment dire, rapprochée d'une personne qui fait du soutien psychologique et social. Du coup, je travaille en duo avec la personne qui elle peut faire ce chemin psychologique en compétence, quoi.
Parce que comme vous le dites, ça fait ressortir des sentiments justement de ces personnes qui sont handicapées. Si on les pousse, je vais dire, dans le retranchement, il y a plein de choses qui en ressort. Alors, pas forcément.
Justement, je ne les pousse pas dans le retranchement. Hein. Je leur propose des solutions artistiques pour aller vers leur retranchement. Voilà, ça. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout la maîtrise du retranchement et d'aller jusqu'à l'expression, quoi, en fait, de la personne. Mais c'est simplement voilà, poser quelques jalons pour dire, ben voilà, si vous utilisez telle matière, tel truc, vous aurez tel résultat. Donc, eux se lancent. Donc, j'ai pas un travail de thérapeute, quoi. Ouais,
On ne les pousse pas dans leur retranchement. C'est eux qui nous proposent quelque chose. Ils nous donnent quelque chose. Et c'est à nous de l'utiliser ou pas faire. Voilà. D'essayer de les accompagner dans ce qu'ils nous proposent.
Merci.
We'll be right back.
Couleur FM 97.1 avec nos invités Christophe Carmelino et Georges Testu qui nous ont proposé un groupe métal symphonique finlandais Nightwish dans Amaranth de l'album Dark Patient Play. Et ce choix, Georges, disons.
C'est quelque chose qui m'inspire pour créer, parce que ça va loin, ça emporte dans des sons, des sonorités, c'est quelque chose qui monte, ça part du bout des pieds jusqu'en haut des cheveux.
Et voici notre coup de cœur des lecteurs avec Majolire, les passeurs de mots, partenaires de nos passions et complices de nos découvertes, avec le porte-parole Dominique Molin. Et merci Dominique de nous conter ton choix à nous faire craquer l'ossature.
Donc je ne connais pas de roman qui parle de vos pratiques, l'art-thérapie ou quel que soit le nom qu'on lui donne, mais il y a quand même en ce moment pas mal de romans qui sortent avec comme sujet l'art, la production artistique. Et parmi ceux-là, il y a Charlotte de David Foenkinos, qui est un grand succès de librairie, un roman qui raconte une femme, la Charlotte du titre, une femme peintre, Charlotte Salomon, une femme juive allemande dans l'Allemagne nazie avec tout ce que cela implique. L'histoire d'un destin, comme si le dernier mot du livre était déjà là, en germe, dans les premières pages. Ce livre a eu le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens. Il se distingue par son écriture en vers libre, avec des phrases souvent très courtes. L'auteur nous fait partager une existence avec ses moments de grâce, ses douleurs intenses, et une volonté à toute épreuve pour aller au-delà du destin qui semble être celui de Charlotte. On n'est pas surpris de voir que des lycéens aient souhaité distinguer un tel roman. Une fois de plus, ils attirent notre attention sur une lecture passionnante de bout en bout. Alors, le passage que je vais lire, eh bien, c'est quand Charlotte Salomon pense à ce qui va être en fait son œuvre principale. Sur le chemin du retour, elle respire profondément. Ce jour-là, c'est la naissance de son œuvre, vie ou théâtre. En marchant, elle pense aux images de son passé. Pour survivre, elle doit peindre son histoire. C'est la seule issue. Elle le répète encore et encore. Elle doit faire vivre les morts. Sur cette phrase, elle s'arrête. Faire revivre les morts. Je voulais aller encore plus profondément dans la solitude. Fallait-il aller au bout du supportable pour enfin considérer l'art comme seule possibilité de vie? Ce que Maurédis a dit, elle le ressentait. Dans sa chair, mais sans en avoir la conscience. Comme si le corps était toujours en avance sur l'esprit. Une révélation et la compréhension de ce que l'on sait déjà. C'est le chemin qu'emprunte chaque artiste, ce tunnel imprécis d'heures ou d'années qui mène au moment où l'on peut dire enfin, c'est maintenant. Elle voulait mourir, elle se met à sourire. Plus rien ne va compter, plus rien. Rares sont les œuvres ainsi créées, dans un tel degré d'attachement au monde. Tout est limpide, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, il n'y a plus d'hésitation dans ses mains. Elle va peindre ses souvenirs de manière romanesque. Les dessins seront accompagnés de longs textes, c'est une histoire qui se lit autant qu'elle se regarde, peindre et écrire. Cette rencontre est une façon de s'exprimer entièrement, ou disons totalement. C'est un monde. Cela rejoint la définition de Kandinsky. Créer une œuvre, c'est créer un monde. Lui-même étant soumis à la synesthésie, cette union intuitive des sens, la musique guidait ses choix de couleurs, vie ou théâtre, est une conversation entre les sensations, la peinture, les mots et la musique aussi. Une union des arts nécessaire à la cicatrisation d'une vie abîmée. C'est le choix qui s'impose pour la reconstitution du passé. Et c'est un tourbillon de puissance et d'inventivité. Que se passe-t-il quand on découvre l'œuvre? Une émotion esthétique majeure. Je n'ai cessé d'y penser depuis. Sa vie est devenue mon obsession. J'ai parcouru les lieux et les couleurs, en rêve et dans la réalité. Et je me suis mis à aimer toutes les Charlottes. Mais l'essentiel, à mes yeux, est vie ou théâtre. Une vie passée au filtre de la création pour obtenir un travestissement du réel. Les protagonistes de sa vie deviennent des personnages, comme au théâtre. Ils sont présentés au début. Alfred Bolzon apparaît sous les traits d'Amadeus d'Aberlon. Les Salomon deviennent Cannes. Charlotte parle d'elle à la troisième personne. Si tout est réel, cette distanciation semble nécessaire pour atteindre une réelle liberté dans le récit. La fantaisie peut surgir avec davantage d'aisance. Et on va s'arrêter là.
Charlotte de David Foenkinos, qui a eu bien des prix chez Gallimard. Christophe et Georges, avez-vous eu une lecture ou des lectures qui vous ont marqué dans votre profession? Georges, peut-être.
Oui, moi, il y a beaucoup de choses de Jung qui m'ont beaucoup intéressé. Après, l'écriture aussi est quelque chose qui peut nous emporter très très loin. Et j'ai écrit un tout petit texte que j'aimerais vous lire sur le début de l'impossible, c'est-à-dire l'acte de créer. On parle toujours de la feuille blanche ou de la toile blanche. Ça s'appelle « Début de l'impossible ». Début de l'impossible, impossible de débuter. Écrire l'impossible, il faudrait crier, mais aucun mot ne sort. Ma langue en deux s'est pliée, sa porte de l'accessible s'est brusquement fermée sur mon ennui inadmissible. Tombe la pluie, j'ai crié sur mon bonheur, impossible à créer. Faire une toile ? Possible. Peindre ? Peindre pour ne pas s'éteindre. Éteindre. La petite lumière est venue. Alors ? J'ai peint. Peindre l'impossible ? Mais ça ressemble à quoi ? Vision d'une vie improbable. Trace de couleur reconnaissable. Vie retracée, repassée, enfouie, ressortie. Une branche de mon passé ? Passé composé, compliqué. Pas de quoi pavoiser, ineptie. J'ai posé le couteau à peindre et j'ai éteint. L'indicible s'est déposé. Je peux me coucher, t'étreindre et rêver à l'impossible.
Vous avez écrit également « Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ?» Si vous le permettez, je vais vous le lire. « Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? La vie vaut-elle d'être vécue, même sans le moindre écu ? Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? L'écriture nourrit-elle son homme, même avec une seule pomme ? Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? Pour moi, pour nous, pour vous, pour ceux qui dorment sur les bouches d'égout, pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? Pour exprimer ma liberté et affirmer mes choix d'aimer. Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? Pour laisser un mot, une trace, peut-être pour combler l'espace. Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? Pour que la boule en dedans n'explose et recrée du vivant. Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? Parce que je suis là, j'ai chaud et je mange. Mais beaucoup de choses me dérangent. Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? Parce que l'on a aimé, on aime et on aimera jusqu'à notre dernière ligne de vie. Pourquoi j'écris, pourquoi je crie ? Parce que écrire, c'est crier en silence. Ou peut-être parce que j'ai quitté l'école à 16 ans. Voilà une autre façon de parler, de crier. Et pour vous, Christophe, un livre ou un manuel qui vous a fait effet ?
C'est vrai que la lecture, c'est toujours quelque chose qui accompagne l'acte artistique, parce qu'effectivement, on se pose la question des autres. Et il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Narcisse et Goldmund, d'Hermann Hesse, où il y a la relation entre un clerc et puis un jeune novice qui va quitter et qui refuse l'initiation religieuse et qui part vivre sa vie d'homme pour revenir en fait à la sculpture et par la sculpture à une certaine spiritualité. Voilà. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup ému à l'époque et que je suis en train de creuser un petit peu plus, ouais, qui m'intéresse beaucoup.
Oui, alors pour que ceux qui vous écoutent se représentent un petit peu mieux vos différentes pratiques, est-ce que vous pourriez faire chacun, l'un et l'autre, un petit zoom sur vos ateliers ? C'est quoi un atelier ? Comment ça commence ? Comment ça se continue ? Et comment ça se termine ? Et est-ce qu'entre-temps, il y a des coups de téléphone, il y a des SMS, il y a des messages ? Voilà, si vous pouviez, Christophe et Georges.
Alors,
Christophe.
Oui, donc le principe de l'atelier, c'est un atelier qui est un peu en rentrée-sortie permanente. On a des personnes qui viennent, qui s'inscrivent. On en a 9 heures par semaine. La présence est obligatoire, entre guillemets. Et puis, donc je rentre dans la technique par des exercices avec les personnes. Et puis progressivement, elles prennent une certaine autonomie une fois qu'elles ont fait la représentation du corps humain, la perspective, la couleur, les techniques, je ne sais pas, les animaux. Et puis après, on va, j'allais dire, un petit peu dans le sens où elles veulent aller. C'est-à-dire que si elles préfèrent peindre des animaux, ben on va accentuer sur la représentation, la texture du poil, des plumes, des... Voilà. On est dans quelque chose de... Justement, dans l'aspect méditatif du travail artistique et où on cherche à représenter, j'allais dire, un certain réel, ou réalisme, en fait. Et progressivement, je me rends compte que les choses, à chaque fois, les sujets sont interprétés, sont légèrement détournés, emmenés là où les personnes ont envie de les avoir, en fait, et c'est ce qui est toujours assez passionnant. Dans un deuxième temps, je propose aussi le travail du modelage. Alors là, qui a des vertus thérapeutiques absolument fabuleuses. Les ergothérapeutes l'utilisent aussi, parce qu'effectivement, ça a un pouvoir décontractant assez, assez étonnant. Et puis là, bah, effectivement, je m'appuie aussi sur les réalisations qu'on peut faire, mais je donne une image des images, parmi ces images, quelque chose est choisi, on essaie de la réaliser, mais comme on a une image en deux dimensions... Voilà, tout à coup, on essaie de prendre conscience de la troisième. Alors très souvent, ce sont des personnages ou des. Je leur dis, mais vous avez les modèles vivants autour de vous. Regardez le nez, comment il est fait, comment l'œil fonctionne, la paupière, voilà, comment ça se plie, comment le bras se tord ou autre. Et puis ça emmène les gens aussi vers quelque chose de très personnel à chaque fois, parce que. Voilà, les gens avec leur gaucherie, parce que effectivement, je n'ai pas affaire à des artistes, ça s'adresse pas à des personnes qualifiées, au contraire, font des propositions qui après, on essaye de mettre en valeur dans des expositions ou dans différentes communes environnantes, et puis. Voilà, si bien que les gens arrivent, j'allais dire, avec tout leur petit sac de soucis, et puis. Bon, pour faire court, hein. Et puis viennent le jour du vernissage, pomponnés, maquillés, avec une petite veste ou un petit costume, et puis, vous aimez, c'est moi qui l'ai fait. Voilà.
Je pense que notre plus belle récompense, elle est là, c'est l'acte, quand ils voient ce qu'ils ont réussi à créer, puis qu'ils peuvent le transmettre à quelqu'un, je dis, ça, c'est moi qui l'ai fait, je pense. Alors moi, je vais vous parler simplement d'un atelier que je fais, par exemple, en maison de retraite ou en hôpital gériatrique. J'accorde beaucoup d'importance au bonjour. Je veux que la personne, elle se sente accueillie et elle rentre dans un espace qui est différent de la journée. Donc, un petit moment de bonjour. Je leur serre longuement la main. Souvent, c'est des dames, elles ont froid aux mains. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir les mains chaudes. Donc, je les réchauffe un peu, je les accompagne à la table et elles viennent pour faire quelque chose, soit de la peinture, soit du... coloriage, parce que certaines, elles aiment bien avoir un dessin, puis pouvoir le colorier. J'ai en principe 6 personnes qui me sont proposées par la maison de retraite ou l'hôpital. Je ne les choisis pas, je leur dis même certains cas un peu difficiles, ben je veux bien essayer, après on voit. Donc, passer le premier acte de les accueillir, je les laisse commencer, je leur demande, pour une fois, elles ont la possibilité à la maison de retraite de pouvoir... Souvent, on leur dit « allez faire ci, allez faire ça ». Moi, je leur dis « mais qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui comme couleur ?» Et déjà, on ouvre une possibilité. Alors, je les laisse commencer et puis petit à petit, je m'assois à côté d'une, à côté de l'autre. Et je suis très tactile, alors je les touche beaucoup. C'est vrai que je les embrasse, enfin, je les serre un peu avec les bras. J'aime bien leur toucher les mains et tout ça. Et à un moment donné, comme ça, il se passe quelque chose, bon, des fois, et hop, elles me lâchent quelque chose, elles me racontent une petite partie de leur vie. Quelque chose, bon, des dames reviennent 50 ans en avant, elles ont besoin d'avoir leurs parents en fixation, il faut qu'elles aient préparé la soupe ou des choses comme ça. Et c'est fabuleux, ce petit échange qui dure 2, 3, 5 minutes, des fois une, et voilà. Donc après, je fais le tour un peu de tout le monde, et à la fin, on regarde un peu ce que chacun a fait, mais il n'y a jamais, on ne dit pas que c'est beau, ni que, voilà, on dit, on est content d'avoir fait ça, ou pas, qu'est-ce que ça nous apporte, ou qu'est-ce que c'est, parce que certaines choses sont des fois un peu indéchiffrables. Après, on finit par un petit goûter qu'on prend ensemble, un petit moment où chacune peut discuter un peu plus librement. Alors, l'avantage des ateliers, c'est que souvent, ça devient des ateliers très silencieux. Une fois installés, passer les 5 premières minutes, après c'est silence, on est bien. Et on sent ce bonheur dans ce qu'elles sont en train de faire. Et la dernière chose à laquelle je tiens énormément, c'est le revoir. Il faut que le temps ça commence quand je leur dis bonjour, et cette période-là s'arrête quand je leur dis au revoir aussi. Je leur serre la main longtemps, je les embrasse un peu, et voilà, ça peut être fini. Une de mes fiertés par rapport à la maison de retraite, c'est que quand on est dans une pièce un peu spéciale, et les employés, les infirmières ou les adjoints, elles avaient pris l'habitude, comme elles font malheureusement pour d'autres contraintes, de pousser une personne et d'en tirer une autre, donc d'amener deux personnes à la fois. Et moi, ça m'horrifiait. Je leur dis, mais attendez, elles arrivent dans un lieu où elles sont là pour être pour leur bien-être. Stop. Et aujourd'hui, ce problème-là n'existe plus même dans la maison de retraite. Elles ont compris que, voilà, si elles en amènent une, on prendra 5 minutes pour amener l'autre, mais voilà. Et je trouve que c'est une petite victoire, mais une belle victoire.
Magnifique.
C'est vrai.
FM 97.1 avec Christophe Carmelino, Georges Testu. Pour finir, nous venons d'entendre Eric Satie dans Gnossienne numéro 1. Et ce choix, Christophe, pourquoi ce choix de Eric Satie?
J'aime beaucoup Eric Satie parce que c'est ces titres paradoxaux ou emphatiques et puis avec une musique d'une beauté, d'une douceur, d'une simplicité. Voilà. J'adore la musique, mais je ne l'écoute pas en travaillant, parce que j'ai une pratique de dessin ou de peinture qui se rapprocherait plus de la calligraphie, où je cherche l'impulsion, le travail et le vide. Donc c'est vrai que je ne suis pas porté dans l'écoute de la musique par mon travail. Peut-être aussi parce que je sculpte à la tronçonneuse et que ce n'est pas très facile d'écouter de la musique en sculptant.
Alors, est-ce qu'on peut vous demander...
Je voudrais juste réagir, alors que moi, je travaille qu'en musique. Je travaille très rarement dans le silence. J'ai fait des tableaux qui ont une notation musicale complète. Je sais avec quelle œuvre j'ai fait ce tableau.
Alors, est-ce qu'on peut vous demander à l'un et à l'autre quels sont vos projets immédiats ou Georges Testu?
Alors, moi, pour le moment, je travaille sur un projet qui s'appelle « Mille et un visages ». C'est un collectif de 6 associations où on travaille sur la photo, la peinture, le masque, la création d'une fontaine, parce que bizarrement, Villefontaine, nous n'avons pas de fontaine. Donc voilà, ce sont des petits ateliers qui vont se faire toute l'année jusqu'au 30 et 31 mai. Et on veut essayer de faire un mur d'image parce qu'on pense que la première chose que l'on doit présenter, c'est un visage. Et nos visages vont construire ce mur d'image. Après, j'ai des ateliers réguliers à Villefontaine. J'interviens toujours en maison de retraite et avec des jeunes au lycée de Pont-de-Chéry.
Un site ?
george.testud.fr.
Merci. Christophe Carmelino.
Alors actuellement, j'ai quelque chose de complètement innovant dans mon travail. Je travaille avec une compagnie de marionnettes et je réalise des marionnettes en papier. Un théâtre de papier. La première des représentations va être au mois de janvier, le 9 janvier, à Saint-Quentin-Fallavier, à l'espace culturel Georges Sand. Après, je poursuis mes ateliers à l'association Nuance sur toute l'année 2015-2016. Si nos financeurs nous suivent, bien sûr. Et puis, donc, j'en profite pour lancer un appel à toutes les personnes qui désiraient avoir des renseignements, nous contacter à l'association Nuance à Villefontaine.
Et un site, peut-être ?
Un site, il faut taper C Carmelino. Et puis, à partir de là, sur le moteur de recherche, il y a un site qui sort.
Carmelino, C-A-R-M-E-2-L-I-N-O. Donc, et deux C pour commencer, puisqu'il y a le C de Christophe.
Voilà.
Merci beaucoup. Et puis, Nuance, merci. Qui se trouve sur Villefontaine, en tapant Nuance, on peut voir aussi ce qu'ils font. Merci. Merci, Christophe. Merci, Georges. Merci Dominique.
Merci, Zitane.
Merci, Laurent. Merci. Et à très bientôt.
À très bientôt.
Et bonne reprise en ce début d'année nouvelle.